Bonjour Xavier.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous.
Question ce matin autour des remords sur Twitter.
Oui, il y a un an a été ouvert un compte Twitter du nom de « Fallait pas supprimer ». Son principe, comme tous les bons principes, est très simple. Il reproduit des tweets que leurs auteurs avaient supprimés. Ainsi, si l'on suit ce compte, on voit défiler des phrases qui auraient dû disparaître, mais qui sont soudain sorties des limbes numériques pour réapparaître devant nos yeux. Alors évidemment, ce compte connaît un grand succès, d'autant que ce n'est pas n'importe qui est épinglé. La plupart du temps, ce sont des responsables politiques, parfois des journalistes ayant pignon sur rue. Alors comment ce compte procède? La personne qui l'a créé m'a expliqué avoir eu l'intuition qu'il y avait plus dans un tweet supprimé que dans tout autre tweet, et qu'elle avait commencé de manière assez artisanale avant d'industrialiser le processus avec un petit programme. Bref, tout ça fonctionne très bien. Alors, on peut trouver ça cruel.
Ah oui.
Ouais. Quand un ministre supprime un tweet parce qu'il comporte une énorme faute d'orthographe, quand il s'agit de retirer une formule qui aurait pu être mal interprétée et sortie de son contexte, ou alors quand une députée se trompe d'émoticône et utilise le symbole du fou rire pour annoncer le 5e mort de l'attentat de Strasbourg, oui, on peut dire qu'il y a une forme de cruauté à souligner ces erreurs et à les diffuser. Mais deux choses à noter. Un, ça a quand même la vertu de montrer que l'approximation est une tare bien partagée et que la communication est une entreprise toujours risquée. Deux, cette production est assez marginale dans ce que diffuse « Fallait pas supprimer », dont l'ambition va au-delà. Parce que ce qu'on voit le plus souvent s'exprimer dans la suppression d'un tweet est en effet intéressant. C'est un remords. Remords qui peut avoir différentes causes, chacune illustrant un travers possible de nos nouveaux modes de communication. Remords d'avoir parlé sous le coup de la colère, et regret de ne pas avoir attendu un peu qu'elle retombe avant d'insulter l'interlocuteur. Remords d'avoir été méprisant. Par exemple, la période des Gilets jaunes a été très fertile en tweets de la majorité gouvernementale, notamment dans lesquels elle s'exprimait avec un mépris social évident, et ensuite les auteurs ont essayé de supprimer ces tweets, de les faire disparaître. Remords d'avoir fait une prévision foireuse, ou encore remords d'avoir relayé trop vite une information douteuse, où on s'aperçoit que pas grand monde donc n'est à l'abri de la crédulité immédiate. Donc oui, il y a des informations dont ces tweets supprimé. Il y a la visualisation de l'écart qui existe entre l'image qu'on voudrait donner de soi et celle qu'on donne malgré soi dans la précipitation, et cet écart est toujours parlant. Et se faire épingler vexe souvent les auteurs qui se vengent en bloquant « Fallait pas supprimer » pour sortir des radars du compte. En fait, ce qui me frappe là-dedans, c'est la très grande puérilité des outrés. En permettant de supprimer un contenu qu'on a posté, les réseaux sociaux offre une possibilité quasi magique de retirer un propos. Je retire, vous savez, c'est ce que disent les enfants quand ils sont allés trop loin, en espérant que ça suffise. Eh bien, fallait pas supprimer, annule cet acte magique. Tu croyais avoir retiré ? Eh ben non, c'est toujours là. Et c'est encore pire. En culture numérique, on appelle ça l'effet Streisand. C'est-à-dire ce qui fait référence à une vieille histoire de l'Internet quand Barbara Streisand avait voulu faire interdire une photo de sa maison qui circulait dans les réseaux. Et bah, ça avait fait pour effet de faire multiplier les photos de sa maison. Ce compte fallait pas supprimer n'est qu'une invitation à assumer sa propre connerie, sa propre malhonnêteté, ses propres outrances ou négligences. Et on peut comprendre que ce soit difficilement supportable.